chapitre 2.
Chapitre 2.
Bonjour et bienvenue sur chapitre 2. Je suis Alice. Ah, là vous attendez qu'il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Ben aujourd'hui, je suis toute seule. Mais en fait, je vous explique. Non, c'est pas la fin de Cécile. Elle est là avec nous.
La séparation.
Puisque c'est elle, mon invitée aujourd'hui. Puisque elle a eu peur. À un moment donné, elle a dit, ah, j'ai oublié de dire un truc. Mais non, c'était bien ça. Donc aujourd'hui, nous accueillons donc Cécile Briomé, qui est, en plus de m'accompagner sur le podcast, aussi autrice. Donc j'avais envie de qu'on parle un petit peu de ses livres, de son parcours et tout ça pour la connaître un peu mieux. Donc bonjour Cécile.
Bonjour Alice. Merci de m'accueillir.
Bon, d'habitude t'es chez toi, donc ça va, oui, ça devrait le faire. Alors Cécile, on peut dire que tu as une autrice hybride.
Ouais.
Donc j'explique un petit peu ce que ça veut dire. Hybride, ça veut dire que tu es édité à Médium Édition et tu as des livres aussi en auto-édition.
C'est ça.
Donc voilà. Voilà. Et sinon, comme tu sais, je te laisse te présenter comme tu le veux pour la suite.
Alors, je suis Cécile Briomé, c'est mon nom de plume. Je suis autrice, formatrice. J'ai créé 3 formations pour auteurs. Et je suis aussi podcasteuse à tes côtés et je suis également animatrice d'ateliers d'écriture et d'expression écrite à destination des scolaires, des particuliers, des structures, etc. Je suis maman d'un petit garçon, j'ai 3 chiens, un mari que je mets en dernier dans la liste, mais mais il n'est pas le dernier dans mon cœur.
On montre l'importance du mari.
En le disant, tu sais, en listant, je me suis dit, mince, mon mari passe en dernier, il va apprécier. Mais bon, il écoutera sûrement pas, il n'est pas très réseaux sociaux, donc il écoutera sûrement pas. Voilà.
Ouais, elle dit ça, mais on va lui envoyer.
Oui, c'est ça. Non, mais voilà, ça résume assez bien, je crois, ma vie, mon œuvre. Je suis pas très à l'aise pour parler de moi, ça se sent.
Mais si, on est chez nous, là.
Oui, ça va.
Donc, oui, plusieurs casquettes. Tu disais autrice, mais aussi formatrice. Et tu animes aussi des ateliers d'écriture. Mm. Donc, en fait, toi aussi, tu es une hyperactive qui n'arrête jamais, si j'ai bien compris.
C'est ça. je mets depuis toujours, je crois. Et en fait, j'ai un parcours universitaire un peu pas particulier, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de choses scolairement parlant. Je suis juriste, j'ai un master en droit des affaires, j'ai une maîtrise métier de l'enseignement, de l'éducation, de la formation, j'ai le concours de lettres et d'histoire. Il y a aucune cohérence dans mon parcours scolaire. Et je le croyais, puis petit à petit, ça m'a amené là, et je me dis, là, j'arrive à récupérer toutes ces casquettes et à les mettre sur ma tête, donc tout va bien.
En fait, Cécile, elle s'est cherchée longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fini par se trouver. Donc,
voilà,
c'est le plus important au final. Mais...
Ça a parfaitement résumé. Ça pourrait être le titre d'un roman. J'ai cherché longtemps.
Bon, tu le sais, parce que tu connais par cœur notre façon de procéder, mais en tout cas, nos auditeurs aussi, maintenant, ils commencent à connaître bien comment on fonctionne. C'est le moment du tac au tac. Est-ce que tu es prête?
Ouais, mais tu sais que ça va être compliqué, le tac au tac, pour moi. Je suis tellement indécise.
Non, mais le but, c'est que tu réfléchis pas vraiment.
Oui,
sors ce qui te vient à l'esprit, même si c'est complètement aberrant.
Ça marche.
Entrée ou dessert?
Dessert.
Ah, tu vois, c'est... Ah,
oui,
ah,
oui.
Été ou hiver?
Hiver. Oh, le bruit dégoûtant, je suis désolée. Pardon.
Ah, ça commence bien. Comédie ou film dramatique, pardon?
Comédie.
Comédie. Et au café?
Thé. Je crois que j'ai dit café, non, quand on avait répondu toutes
oui.
les deux. Là, c'est thé. Voilà.
Matin ou soir?
Soir.
Ah, tu vois, t'es plus du soir?
Ah, je suis un oiseau de nuit, moi.
D'accord. Ah, mais je pensais que t'étais plus du matin.
Non. Depuis que j'ai un enfant, j'ai pas le choix de me lever le matin. Mais,
oui.
Mais quand j'ai fait un an à distance, de cours à distance, en maîtrise, et je pouvais me coucher à 4-5 heures du matin,
oui.
du coup, et me réveiller vers 10h, 11h le matin. Enfin, ouais, je suis un oiseau de nuit, je travaille la nuit, si je peux.
Corner les pages ou marque-page?
Marque-page.
Est-ce que, parce que on peut le dire pour le coup, toi, un petit peu, est-ce que tu préfères travailler toute seule ou avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans ta phase créative, par exemple, de d'écriture, parce que tu as un recueil, donc même si vous l'avez pas travaillé en même temps, mais vous l'avez quand même, au final, il y a une mise en place collective. Est-ce que tu préfères donc être toute seule dans ton coin à écrire ou faire un projet avec d'autres personnes?
Disons que sur les premières phases, j'aime bien être seule pour pas m'imprégner des idées des autres et pour pas être influencée par les idées des autres. Après, j'ai un groupe avec mes meilleures amies et quand j'ai une idée sur laquelle je bloque, je leur envoie des messages pour qu'elles m'aident, pour qu'elles me disent un petit peu là c'est bizarre ou ça c'est un peu déjà vu, c'est redondant, etc. Donc voilà. Mais sinon, je suis assez solitaire. Par contre, sur les dernières phases, tout ce qui va être bêta lecture, correction, voilà, des modifications à apporter, des choses comme ça, je doute énormément, j'ai très peu confiance en moi, donc j'ai vraiment besoin de travailler à plusieurs à ce moment-là. Alors bon, quand c'est des projets collectifs, tu travailles forcément à plusieurs, mais même toute seule, j'ai besoin d'être entourée de gens.
Ok. Oui, tu disais que tu as un groupe d'amis, alors je reviens dessus parce que c'est marrant. C'est-à-dire, tu as une idée d'un roman ou d'une situation dans un roman, tu leur demandes leur avis.
Oui, bah en fait, quand il y a quelques années, par exemple, j'ai commencé à écrire un texte historique. Et bon, je l'ai complètement laissé de côté. Donc, c'était en 2016 et je l'ai repris là, cet été. Donc, quelques années, 7 ans quasiment plus tard. Et donc, 7 ans d'écriture aussi pour moi, en mieux, j'espère. Et en fait, l'idée était pas ouf. Le style était clairement pas bon. Mais la trame, j'aimais bien, j'avais envie de garder, il y a certaines choses que j'avais envie de garder et je ne savais pas comment le tourner, donc je me suis dit je vais repartir sur des dystopies parce que j'adore écrire ça, mais j'arrivais pas à savoir exactement comment, par quel prisme aborder le sujet, l'histoire et tout. Donc je leur ai soumis plein d'idées et je leur ai dit voilà, j'aimerais bien travailler sur ça, ça, ça. Il y en a qui m'ont dit ah tu vois ça me parle pas, puis tu vas être bloqué je pense à tel endroit, et voilà, et en fait ça s'est décanté comme ça. Et ce projet, par exemple, je l'ai fait ensuite bêta lire par Nathalie Longevial, ceux qui la connaissent. Donc voilà, j'aime travailler quand même m'entourer de gens et je me vexe pas facilement, donc c'est, enfin en tout cas pas professionnellement, dans ma vie privée sûrement plus, mais professionnellement je me vexe pas facilement, ouais. Donc on peut moi me dire bon là franchement là c'était pas bon, tant que c'est constructif franchement je prends.
D'accord. Ouais, dystopie. Moi, j'écoute parce que du coup, ça m'intéresse parce que j'aime bien tes dystopies. Bon, on en parlera après. Donc, t'as une autre dystopie en bêta lecture, hein, ce que tu disais.
C'est ça, en one shot, ouais. Un one shot.
Enfin, oui, sans plusieurs tomes, ouais.
Oui,
ok.
Oui.
Donc, ça veut dire que tes copines, en fait, elles connaissent les histoires avant qu'elles sortent, puisque j'imagine que tu vas jusqu'au bout avec elles.
Eh ben, elles les lisent pas forcément. Non.
Après, tu veux dire?
Ouais. Là, tu vois, ouais. Cette dystopie-là, elles l'ont pas lue, par exemple. D'ailleurs, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a dit « Comment se fait-il que je ne l'ai pas reçue ?» Mais elle a lu mon contemporain, que tu as lu également, celui qui n'est pas sorti. Et celui-là, elle l'a lu, tu vois, mais je lui envoie, d'ailleurs. Oui, après, je fais pas de grand mystère, hein, je leur envoie, je suis assez...
Mais ce que je veux dire, du coup, elles sont spoilées, parce que tu leur demandes au niveau de la phase d'écriture, je sais pas.
Ouais, mais les fins, non.
Ah,
elles,
ok,
elles
d'accord.
Pas les fins.
Non, ok, non. Laisse quand même, tu laisses quand même un peu le suspense.
Ouais, ouais, ouais. Okay. Ou alors je leur donne plusieurs fins. Qu'est-ce que vous,
oui.
Genre pour le sang des insignies par exemple, sur certains tomes, une de mes meilleures potes, là, je lui ai dit, alors sans trop spoiler, mais en tout cas à la fin de la trilogie, je lui dis, est-ce que tu verrais plutôt ça, ça ou ça? Elle m'a dit, bon, la première option, je ne te parlerai plus. La deuxième, tu vas te bloquer si jamais tu voulais revenir ou si tu voulais ouvrir sur d'autres personnages et tout, tu vas te bloquer. Donc, effectivement, elle avait raison. Et donc, ça s'est opté pour la troisième. Voilà.
Oh là là, mais c'est la fin, hein, c'est le troisième volume, c'est
oui.
Ça?
Ouais, ouais.
Ok, d'accord. Non, je comprenais pas. Non, mais en même temps, oui. Enfin, oui. Mais il y en a qui ont dû te dire la même chose pour le deuxième. Hein. On n'a plus envie de te parler, mais bon.
Bref. Tous les tomes, je crois.
On n'a pas.
Je reçois des menaces sur chaque tome.
Oh, elle reçoit des menaces. Oui. Je comprends. Bon, allez. La dernière. J'espère que tu répondras à ce que je pense.
Oui.
Action, vérité.
Bon, allez, vérité, parce que j'ai mal au dos, là. Je ferai pas de remède de piquer.
Elle a peur que je fasse faire des trucs chelous.
C'est ça. Vérité.
Vérité. Aujourd'hui, Cécile, tu as X années, on dit, on ne dévoilera pas parce que tu es trop jeune. Et par rapport à moi, quel est ton rêve aujourd'hui?
Ah, alors, professionnellement.
Elle est dure, hein?
Ouais, c'est dur.
Est-ce que je peux reprendre action, du coup?
Ouais, c'est ça. Mais finalement, j'ai pas si mal au dos que ça. Non, mais moi, en plus, je suis quelqu'un, j'ai tout le temps des projets, tout le temps des rêves, tout le temps. Mon mari, c'est un peu une... au début, je pense que c'était une angoisse pour lui. Parce qu'il est obligé de m'écouter. Maintenant,
oui,
je pense qu'il arrive à trier ce qui vraiment est important de ce qui ne l'est pas. Mais bon, j'ai beaucoup d'idées. Et professionnellement, oui, ce serait de réussir à vivre de mes romans.
Oui,
c'est pas le cas. Ouais, voilà, c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai d'autres activités qui me plaisent énormément et que de toute façon, j'arrêterai pas. Parce que j'ai par exemple des ateliers d'écriture, j'adore. Donc il y a plein de choses que je fais que je n'arrêterai pas, mais en tout cas si mes romans pouvaient me permettre d'avoir une stabilité financière et de pas avoir cette angoisse, tu sais, de te dire bon ben là j'ai pas de rentrée d'argent, parce que quand on est auteur c'est ça, hein, y a une réalité financière derrière aussi, c'est pas qu'un métier passion. Et dans ma vie privée ça va, franchement.
Ce serait pas de rêve autre.
Non, des rêves, ce serait plus des souhaits, tu vois, que ma famille soit en bonne santé, que ça bien continue, enfin voilà, j'adore mon mari, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, même si je suis jeune, ça fait très longtemps.
Elle se rattrape par rapport à tout à l'heure.
Ah, c'est ça, je l'aime beaucoup. Tu m'entends. J'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon qui est génial. Comme toutes les mamans, j'idolâtre mon enfant peut-être. Mais bon, voilà, non, ça va, dans ma vie privée, ça va, c'est plus professionnellement. Si j'avais un rêve, ce serait ça, de pérennité, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, que ça continue en bien, en mieux. Voilà.
D'accord, bah super. Bon, c'est le moment de la Madeleine de Proust, mais de Cécile, mais qui ne peut pas se poser sa Madeleine de Proust. Donc, oui, c'est moi qui vais poser les questions dans la Madeleine de Proust. Je suis désolée, les auditeurs, je n'ai pas la voix de Cécile. La mienne est plus agaçante, mais je vais quand même essayer de faire la voix de Cécile.
Et je ne connais pas les questions en plus. Mais comme m'as dit, tu vas pas pleurer avant, je m'inquiète un peu quand même. Je pleure très facilement.
Oui, non, mais c'est normal. Après, voilà, il y a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres. Alors, dans cette rubrique, la Madeleine de Proust, arrête de rire. Nous intéressons. Tu as envie de rire, Cécile, arrête.
Mais non, mais je.
On va couper là.
En fait, tu me dis, t'essayes de m'imiter, mais limite, je me rends compte, ma voix, ça fait presque téléphone rose, quoi, comme tu le fais. Oh, merci. Oh, punaise. Bon, tu me diras, une reconversion qui peut être envisagée, du coup.
C'est jamais, hein.
C'est ton jamais.
Donc, dans cette rubrique de la Madeleine de Proust, nous intéressons à l'enfant qui vit encore en toi, peut-être, ou pas, tu me diras. Donc, je vais te poser deux petites questions. Si tu aimes pas, tu réponds quand même. Et, parce que je n'ai pas d'autres. Tu es prête?
Oui.
Bon, tu es prête. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance?
Alors un truc instinctif, et alors c'est pas, en plus c'est même pas forcément le plus beau, mais j'ai habité chez mes grands-parents pendant un an et demi quand j'étais plus jeune, et j'étais tout le temps chez eux déjà d'ordinaire, mais là j'ai vécu chez eux un an et demi, et en fait c'est un fou rire avec mes grands-parents. J'avais 16 ans.
Oh.
Ouais, mais c'est un truc débile, hein, c'est que ma grand-mère est quelqu'un d'assez maniaque. Et mes grands-parents étaient plutôt rigides. Et en fait, j'ai trébuché, j'étais très chargée. J'ai trébuché avec une motte de beurre. J'avais un plateau chargé, quoi. J'ai trébuché, tout est tombé dans l'assiette de soupe de mon grand-père. Ça a foutu de la soupe absolument partout, sur lui, sur les meubles. Mais voilà. Et du coup, ils ont pris un énorme fou rire, ce qui n'aurait jamais... Enfin, ce serait sûrement pas arrivé avec ma mère ou ses sœurs, par exemple. Mais moi, j'avais un petit peu le totem d'immunité avec eux sur tout ce que je pouvais faire. Ouais. Donc, voilà. De toute façon, tous les souvenirs les plus beaux que j'ai sont avec mes grands-parents.
Donc, voilà. Plus petite aussi, quand t'étais plus petite, tu as 16 ans, et même quand t'étais plus petite.
Ouais, j'ai beau souvenir avec ma mère aussi, mais c'est vrai que mes grands-parents, c'est peut-être parce qu'il y a toute la tendresse qu'on met derrière des grands-parents pour ceux qui ont la chance d'en avoir et qui en sont proches, tu vois, je pense. Que voilà. Ouais, mes grands-parents, c'est les plus beaux souvenirs.
Ok. Et donc, j'ai une autre petite question par rapport à tes rêves, justement. Quand tu étais petite fille, Est-ce que tu avais un rêve, quelque chose que tu avais envie de faire plus grande ou d'avoir plus grande?
Alors moi, depuis, c'est ma mère qui me l'a dit, et bon, j'en avais un petit peu souvenir, mais depuis que je suis toute petite, mais vraiment petite, hein, j'ai toujours dit à ma mère qu'à 18 ans, je serais partie et je serais autonome. Et, mais à 5 ans, j'étais, 18 ans, je serais partie, quoi. Donc, et à 18 ans, je suis partie, effectivement. Et moi, c'était plus des rêves de valeur, en fait. C'était, je rêvais pas d'être autrice, par exemple. Pour moi, je savais même pas que c'était un métier, même si j'écrivais depuis petite, mais je savais pas que ça pouvait être un métier. Et c'était pas des rêves comme ça. Moi, je voulais être autonome. Je voulais être libre, en fait. C'est vraiment, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. De partir et d'être bah, autonome à mon échelle, parce que j'étais étudiante, j'étais boursière, donc je dépendais quand même de l'État, je dépendais de plein de choses, hein, je dépendais de la CAF. Mais j'avais un chez moi, j'avais et j'ai toujours été attachée à ça, et même je voyais, j'ai des amis qui rentraient très souvent chez eux le week-end, ou tu vois, ou leur appart étudiant, même je le vois maintenant avec mes cousins, leur appart étudiant, c'était juste un appart étudiant. Moi, mon appart étudiant, c'était chez moi, quoi. J'avais ce truc de vouloir avoir un chez moi à moi. Et d'être autonome, indépendante et libre. Et c'est ce que j'ai fait le plus tôt possible.
Et cette liberté, c'est ce que tu accomplis finalement aujourd'hui avec ta façon de travailler, puisque tu n'es pas enchaînée, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, un employeur. Tu es libre de faire un petit peu ce que tu veux au niveau de tes formations, au niveau de tes ateliers, de l'écriture. Je trouve que c'est... bon, tu peux dire que tu as réussi par rapport à ça.
Bah, c'est une très très grande liberté sur l'emploi du temps, parce que c'est vrai que je gère mes heures comme je veux. Oui. Donc ça, c'est cool. Après, être entrepreneur, c'est beaucoup plus fatigant que quand j'étais salariée, par exemple.
Oui, bien sûr.
Je fais plus d'heures, puis t'as... Quand t'es salariée, tu vois, j'en parlais il y a pas très longtemps avec ma tante, c'est que avant, là, j'étais malade, j'étais très malade. Au mois de février, j'ai eu enchaîné bronchite, enfin comme tout le monde, hein, bronchite, otite, enfin bon, les maux de l'hiver. Et j'ai pas pu beaucoup travailler parce que vraiment, j'étais pas bien. Et ben, quand j'étais salariée, j'étais en arrêt maladie, j'avais mon salaire qui tombait, en plus j'avais un maintien de salaire à la CAF, donc voilà. Et là, non, c'est pas le cas. Là, c'est si tu travailles pas, t'as pas d'argent, donc puis où tu prends du retard, enfin voilà. Donc oui, c'est une grande liberté, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices à côté qui sont différents. Ça dépend en fait où tu places ton importance finalement. Mais oui, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie. Donc, j'essaie de faire, de me donner les moyens, en tout cas, de faire ce que j'ai envie de faire. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé, et je fais ça pour tout dans ma vie. Même si je suis quelqu'un d'hyper flippé, je suis très, très peureuse, et j'ai pas beaucoup, voilà, j'ai pas une énorme confiance en moi, je suis pas hyper sûre, mais je sors régulièrement de ma zone de confort pour me dire, attends, là, est-ce que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter? Oui. Donc, fais-le. Et puis, on verra. Donc ouais, ça
c'est. C'est quand même preuve de courage ce que tu viens de dire.
Ouais.
Contrairement à ce que tu penses.
Oui, mais peut-être. Enfin, je sais pas si c'est du courage ou si c'est. Je veux vraiment pas vivre avec des regrets, quoi. Je crois que j'ai plus peur de vivre avec des regrets que de faire quelque chose qui me fait peur à l'instant T. Je sais pas si c'est très clair, tu vois.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc j'essaie de vivre ma vie de manière à pas avoir de regrets, dans la mesure du possible, quoi. Mais. Je fais pareil avec mon fils. J'essaie de passer beaucoup de temps avec lui dès que je le peux, de faire des moments de qualité, etc. Parce que j'ai pas envie de regretter ça, quoi. Même si ça a entraîné des sacrifices pro, par exemple. Mais ce sont des choses que j'ai réalisées parce que j'ai envie de le faire pour pas avoir de regrets.
Ouais, ok. Mais du coup, quand tu étais petite, t'avais pas une idée de ce que tu voudrais faire plus tard? T'avais pas une idée de métier? Tu sais, comme souvent, les petites filles, on se rêve, je sais pas, maîtresse ou, enfin, tu vois. T'avais pas ce genre de...
Moi, depuis toute petite, mais vraiment toute petite, hein, je devais avoir 5 ans, je pense, ma mère et mon beau-père me disaient que je serais avocate. Mais depuis petite. Ouais, toute petite, que je serais avocate. Je serais avocate. Donc, jusqu'à tard, j'y ai cru. Je me suis même inscrite au concours. Mais puis ma mère voulait que je fasse Sciences Po aussi. Donc, elle m'avait inscrite au concours de Sciences Po en terminale, que j'ai bâclé, parce que moi, je voulais pas faire Sciences Po. Et donc, je suis partie à la fac de droit, parce que bah, du coup, je m'étais dit que je serais avocate. Et bah, j'y suis allée jusqu'en master, et je me suis inscrite au concours. La veille du concours, j'y suis pas allée. Voilà.
Mais c'est ce qu'on voulait pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu voulais? Tu
sais pas. J'ai jamais eu l'espace pour penser.
Ouais, je comprends.
tu vois, je me suis toujours dit que je serais avocate, en fait. Donc, ouais. Ou juge. Ouais, quand j'ai fait mes études, c'était juge, après, ou avocate. Et en dernière année de master, je voulais faire de la recherche en droit.
Oui, d'accord.
Mais en fait, la dernière année de master, en fait, je me suis tellement peu posé la question de ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, qu'arrivé en dernière année d'études, j'ai pas eu la bourse pour faire de la recherche, ce qui était pas plus mal finalement. Et je me suis dit, mais là, je fais quoi? Parce qu'avocate, ça me semble pas être fait pour moi. Le concours de la magistrature, ça me chauffait pas tant que ça non plus. Et c'est là, par contre, c'est parti en sucette. Là,
Moi, je pense pas. Je suis pas d'accord avec ça, mais bon, je comprends ce que tu veux dire.
Bah ouais, ben là, enfin là, tout. Tu vois, du coup, j'ai eu mon master, je me suis inscrite au concours de prof de lettres et d'histoire, j'ai fait une maîtrise MEF, donc métier de l'enseignement, éducation, formation, j'ai eu le concours, je suis allée visiter le collège, le lycée où je devais enseigner, et finalement, j'ai plus envie, donc j'ai abandonné l'idée du concours. Mon mec à côté, il comprenait plus rien de ce que... Qu'est-ce que tu fais, quoi?
Non, mais j'adore, parce que tu vois, la liberté, elle est là aussi.
Ah oui.
Le courage est là aussi. Parce que tu n'aurais pas eu de courage, tu serais allée dans cette voie qu'on t'avait tracée.
Ah oui, oui, oui. Oui, mais après, j'ai toujours, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais je me suis toujours octroyé la liberté de dire merde, tu vois.
Oui, bah, écoute, c'est quand même un courage de faire ça. C'est plus facile de rentrer dans les souliers qu'on nous a mis devant et choisir le chemin le plus simple, le plus facile et le plus direct, entre guillemets. C'est pas ce que t'as fait.
Non, mais après, tu vois, donc après tout ça, j'ai fait un service civique. Voilà. Que j'ai adoré. Ceci étant, j'ai adoré. Je travaillais dans une administration, c'était très très cool. Et après, j'ai atterri à la CAF pendant 6 ans. Donc ça devait être provisoire, ça a duré 6 ans. Mais là, tu vois, c'est pareil. Je me suis foutue dans des souliers parce que à ce moment-là, je me suis dit, ben, donc ça a commencé à la fin de mes études. J'ai repris à écrire et à lire. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais attends, mais auteur, ça pourrait être un métier. Bon, j'avais pas compris à ce moment-là que c'est quand même c'est pas la voie royale. Pour gagner ta vie, hein. Mais je me suis dit c'est possiblement un métier. Sauf que bon, il fallait que je gagne quand même ma vie à côté. Puis ça faisait longtemps que j'étais en couple avec mon futur mari et on voulait acheter une maison, se projeter et tout. Donc je me suis dit il faut que j'aie un travail alimentaire. Mmh. Et bien pile à ce moment-là, j'ai une proposition de travail à la CAF. Et voilà, mais j'y suis restée 6 ans, le temps d'acheter ma maison, revendre ma maison, racheter une maison et avoir mon fils. Et puis je voulais me laisser un petit peu de temps pour pouvoir l'élever, passer un max de temps avec lui. Donc j'ai pris un 80%, je finissais tôt, etc. Et puis écrire beaucoup, parce que du coup j'ai publié quelques trucs, mais j'en ai quand même écrit plus à côté, quoi.
Oui, oui.
Donc ouais,
on
voilà.
On parle après de tes romans, effectivement. Donc ok, bon, mais super. T'as vu, ça fait un peu vraiment psy. Là, tu trouves pas?
Ouais, c'est clair.
T'es chez la psy. C'est ce qu'ils nous disent toujours nos invités, que ça fait un peu la séance de psy, effectivement. C'est
ça, ça coûte moins cher. C'est qui c'est qui nous a dit ça? C'était Serena?
C'est Serena qui était gratuite. Voilà. La séance de psy était gratuite chez nous.
Ça coûte un bras.
Donc, alors, tu as à ton actif aujourd'hui, 1, 2, 3, oulala, t'en as plein. Bref, tu as un roman qui est édité chez Erol. D'ailleurs, il est en poche, il arrive en poche à la fin du mois.
Ouais.
C'est Mon monde en équilibre. Donc moi je l'ai là, mais vous le voyez pas. qui est donc ton premier, on va dire, c'est pas ton premier, mais c'est ton premier à maison d'édition, puisque le premier, la dystopie a fait un passage éclair, mais chez City, donc elle y est plus en tant que telle. Donc on va pas en parler comme ça. Et ensuite, tu as donc une dystopie qui n'est pas finie, dans le sens qu'elle n'est pas entièrement publiée. On en parle tout à l'heure, parce que ça, effectivement, il faut qu'on te mette un peu le speed pour la terminer.
Mais sans pression.
Sans pression aucune. Tu as notre contemporain auto-édité Sous le soleil du Biarritz.
Oui. Donc,
qui est une... Alors, c'est un roman ou c'est une nouvelle au niveau de la taille?
C'est un petit roman. Entre les deux, ouais, c'est un petit roman.
Mm. Ouais. C'est ça. Et ensuite, tu as participé à un recueil Être mère avec plusieurs autrices autopubliées aussi, je pense.
Non,
les autrices,
c'est...
pas toutes.
Ah, non, il y en a qui sont hybrides aussi.
D'accord. Et il est autopublié, ce recueil ou...
Non, il est aux éditions Sortico.
Et donc, c'est un recueil de témoignages, pour le coup, là.
Oui, c'est ça.
Fiction.
Non, c'est dans la collection Faire Face de chez Sortico et c'est de voilà et c'est témoignage mais plus témoignage.
D'accord. Et donc tu as aussi un carnet d'écriture et un agenda perpétuel sur un peu axé sur le l'écriture et tout ça en fait, c'est ça. Hein.
Alors
sur,
l'agenda non, mais le carnet de notes oui. Ça reprend des exercices, okay. des exercices de ma formation.
Oui.
Voilà. Il y a des. Puis ça, j'ai intégré aussi des exercices qu'on retrouve en atelier d'écriture.
D'accord. Ok. Ouais,
c'est un petit tout en un.
Tu intègres. Voilà. T'as un peu fait le mix de tout ce que tu sais faire dans ce carnet de lecture.
C'est ça.
En fait. Parce que comment t'es venue l'idée de créer une formation pour les futurs ou pour les auteurs, en fait, tout simplement, comme on souhaite.
Alors en fait, ben, comme je t'ai dit, je suis juriste de formation et quand j'ai commencé en fait à m'intéresser au métier d'auteur, je me suis rendu compte que c'était assez complexe parce que peu d'infos, parce que des informations qui sont compliquées, pas forcément accessibles à tout le monde parce que le droit c'est un vaste univers qui est complexe en soi. Et je me suis dit, moi avec le bagage que j'ai de formation, hein, j'ai du mal. Donc, j'imagine des gens qui n'ont aucun bagage juridique ou fiscal, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, trouver la bonne info au bon endroit, c'est pas forcément évident. Et alors, on peut les trouver, il y a des assos, il y a des syndicats, il y a plein de choses, hein. Mais ce que j'ai voulu faire, moi, c'est un mix de tout, c'est-à-dire du droit, de la fiscalité, mais pas que. Je voulais aller encore plus loin en faisant des modules d'écriture, du parcours éditorial, de l'auto-édition. C'est vraiment une formation où il y a tout dedans. Enfin, tout ce que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé.
Tu as commencé.
Ouais, c'est ça, parce que même quand j'ai reçu, je me rappelle, au début, j'ai tapé sur Google « faire éditer son roman ». Je suis tombée sur plein de sites et moi, j'ai envoyé à tout et n'importe qui. Franchement, c'est le cas de le dire. Et j'ai reçu des propositions. « Ah, mais votre roman est génial, on le publie tel quel. Envoyez-nous 3 ou 4 000 euros et on fait… » Bon. Et franchement, mais heureusement, je les avais pas. Parce que… Oui. Mais tu sais que j'ai discuté avec plein de gens et je pensais pas que c'était autant. Qui me disent « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. » Il se retrouve jamais au niveau financier. Enfin, c'est
les maisons à compte d'auteurs, en fait, souvent.
Voilà, souvent, c'est ça. Et puis même sur les contrats d'édition, les premières fois que j'ai reçu des contrats d'édition classiques, sérieux et tout, il y a des clauses qui, moi, me paraissaient pas très, à mon sens, pas très correctes. En tout cas, qui ne me satisfaisaient pas. Et voilà, un contrat, ça se négocie, ça s'étudie. Et moi, je dis toujours, il faut signer en connaissance de cause parce que on peut, il y a certaines choses où on se dit, bon, tant pis, ben là, je mets un peu d'eau dans mon vin et c'est OK, on accepte, mais il faut savoir qu'on met de l'eau dans son vin. C'est pas une fois qu'on a signé qu'il faut se dire, ah, mais mince, ça, je ne le savais pas. Donc voilà, je me suis dit, autant essayer de créer quelque chose pour les gens qui débutent un peu et qu'ils aient des connaissances de base en droit, en fiscalité, parcours éditorial et auto-édité et maison d'édition, et en écriture aussi avec ben, qu'est-ce que c'est écriture. Que la bêta lecture, un arc narratif, hein, toutes les fiches que j'ai mis à disposition et les vidéos que j'ai faites sur cette formation.
Et moi j'ai fait la formation, elle est super complète effectivement. Et oui, comme tu disais, c'est vrai que on sait pas tout en fait, surtout quand on commence à écrire. Plutôt les jeunes, je pense, qui ont une envie de d'écrire sans réfléchir trop à ce qui est derrière, parce qu'en fait, tu as l'impression que t'es comme un artiste, t'es dans ton coin et il se passe rien d'autre. Mais après, quand tu te confrontes au monde, ben c'est là qu'il faut voir si t'es bien armé. Et justement, la formation Cécile, je trouve qu'elle nous donne des armes et une armure, on peut pas se faire avoir. et je pense que tout le monde devra avoir une petite formation juridique, mine de rien.
Du coup, j'ai créé 3 formations. La première qui est une all inclusive.
Avec les boissons comprises.
Voilà, exactement. Service inclus. Il y a des modules fiscaux, juridiques, éditoriaux, d'écriture, etc. Donc, c'est vraiment un gros package. Et comme il y a des gens qui n'étaient intéressés que par le module légal, par exemple, ou que par comment publier en auto-édition sur KDP, j'ai détaché ces 2 modules qu'on peut acheter séparément et qu'on peut suivre séparément. Et dans la formation All Inclusive, il y a aussi un coaching d'une heure. Alors, coaching, j'aime pas forcément le mot parce que je me sens pas du tout l'âme d'un coach, mais en tout cas, il y a un entretien si jamais il y avait des questions complémentaires qui n'auraient pas été abordées dans la formation ou qu'on a besoin de quelqu'un qui aurait besoin de détails ou d'un suivi particulier, il y a une heure qui est incluse.
D'accord. Oui. Oui, donc effectivement, t'as le volet entier où il y a tout, et puis t'as les volets plus spécifiques. KDP, c'est quoi? C'est la mise en page, c'est ça?
KDP, c'est quand tu veux publier sur Amazon KDP. Donc beaucoup d'auteurs auto-édités vont sur Amazon KDP. En fait, il y a des petits trucs un peu techniques dont on n'a pas forcément connaissance. Et par exemple, comment faire la maquette sur Canva avec Canva ou Canva? Je sais pas, j'ai jamais su dire. Je crois que c'est Canva. Canva aussi. Bref, sur ça là, comment faire sa maquette, sa couverture, sa quatrième et tout, et comment charger ce fichier sur KDP, quelle référence mettre, etc. C'est pas forcément inné quand on est dessus. Et j'ai accompagné en fait quelqu'un pour publier son Google. C'était un guide pratique de voilà, un guide pratique, mais qu'elle voulait l'avoir en papier, etc., pour le vendre. Et on l'a fait ensemble. Je l'ai aidé sur la maquette, sur la couverture, etc. J'ai adoré. Je me suis dit, mais attends, si elle se pose la question, d'autres gens doivent aussi se poser la question. Et ce serait bien de leur fournir une formation qui est pas très chère, complètement autonome. Et voilà. Et voilà. Donc, j'ai créé ça.
Et puis ce qu'on disait, il y a le juridique, donc pour vraiment pour les personnes qui débutent, qui savent pas trop ce que c'est un contrat, tatatata, et comment on déclare ses revenus quand on en a et tout ça. C'est vrai que c'est un peu nébuleux tout ça, donc c'est vrai que ça permet d'avoir un peu l'info de tout ça et être accompagné, ce qui est pas mal, surtout quand on débute. Je voulais revenir sur ton actualité brûlante, puisque il y a ton livre Mon monde à l'équilibre qui sort en poche
le 28 mars.
Le 28 mars et brûlante parce que tu as une là, tu vas pas aimer ce que je vais dire. Tu as une trilogie non finie pour tes lecteurs qui est ce qui est inacceptable parce que tu as fait un tome 1 qui est fini avec un cliffhanger horrible, un tome 2 pire, et un tome 3 qu'on sait pas, et qu'on espère que ça va se terminer bien pour le coup, celui-là, parce que bon, à un moment donné, voilà. Et, moi, ce que je comprends pas, et je le dis à nos auditeurs, parce que voilà, ça me tient à cœur de le dire, et ceux qui me connaissent le savent, je ne dis pas ça parce que Cécile elle est sympa ou parce qu'elle fait le podcast avec moi ou quoi que ce soit, parce que ben, en vrai c'est moi qui lui ai proposé ce format aujourd'hui, et c'est moi qui ai été la chercher pour qu'elle anime avec moi chapitre 2. Vraiment, c'est ce aparté pour vous faire comprendre ce que je vais dire est très sincère. Je ne comprends pas pourquoi tes livres ne sont pas visibles et on ne te lit pas comme il faudrait. Parce que moi, je suis tombée sur toi un peu par hasard. Tu m'avais envoyé Les Insignies, donc Le sang des Insignies, hein, le premier tome de la trilogie, on va dire, ça s'appelle pareil, hein, Le sang des Insignies. Tu m'as envoyé ça et je l'ai lu comme ça parce qu'il m'intriguait. Et en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit... Mais elle était où, Cécile, avant? Parce qu'en fait, ne pleure pas.
Non, je pleure pas. Je suis très touchée, mais je pleure pas encore.
Mais je comprends pas parce que c'est. Alors moi, je suis pas très très fantasy et dystopie. Pas parce que j'aime pas, mais parce que c'est pas l'habitude que j'ai de lire. En vrai, les seules dystopies que j'ai lues, c'est Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille, mais parce que c'était Marie Vareille, et La Sélection. La Sélection qui est qui est plus alors une dystopie, mais en même temps c'est quand même beaucoup de la romance, quand même c'est le sujet principal, c'est quand même la romance. Donc voilà. Donc je suis pas trop dystopie et des fois c'est des gens qui peuvent m'en faire peur parce que j'ai peur de me retrouver dans un univers un peu farfelu, et ben pas du tout en fait. C'est peut-être que ça me panique aussi, certains univers, bon, en l'occurrence le tien aussi. Parce que alors faut dire ce qui est, Cécile, elle est vraiment pas tendre avec ses personnages, mais vraiment pas du tout. Et ce que j'aime beaucoup dans ses livres, c'est que on s'attend pas du tout à ce qui va arriver. Et ça, quand on est lecteur et qu'on a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ben, on connaît un petit peu les schémas narratifs, on connaît un petit peu ce qui va se passer, on sait à la fin, le héros va gagner et tout ça. Mais en fait, avec Cécile, on le sait pas.
Parce qu'elle tue tout le monde.
Hein?
Parce qu'elle tue tout le monde.
Non, elle tue pas tout le monde, mais c'est, elle leur fait vivre des choses horribles à ces pauvres personnages. Mais voilà. Bref, en tout cas, c'est ça pour dire que si vous voulez découvrir une autrice qui écrit des dystopies et qui se lise toute seule, bien qu'on pleure, on a envie de balancer le bouquin contre le mur tous les 5 minutes parce qu'il nous énerve, parce qu'elle nous fait crever des personnages qu'on adore, parce que elle les martyrise, parce que voilà, moi j'adorais, et j'ai fait découvrir d'autres personnes qui l'ont aussi aimé, et donc là, le troisième volet, pour revenir à ma question initiale, il sort quand? Et où, surtout?
Alors, quand? Au départ, c'était février, donc on est en mars.
Donc, déjà, c'est mort. Voilà. Là, c'est mort.
Ouais, non, parce que j'avais une première correctrice qui, malheureusement, a eu un souci, a pas pu le corriger. Par ton intermédiaire, j'ai rencontré une nouvelle correctrice qui est en train de le corriger. Donc normalement avril, normalement okay, avril, d'accord. Courant avril. Mais j'ai hâte, hein, moi aussi, qu'ils sortent.
Ah oui.
J'ai hâte.
Autodité.
Oui.
D'accord. Donc sur le même format que les deux premiers, oui, avec oui. la même forme de couve, j'imagine.
Oui.
Ok. Ouais, donc elle avec est prête, une identité visuelle.
Tout est prêt. Okay, oui. Super. Le même genre que les deux premières, enfin que j'ai refaites du coup les couvertures parce que moi ça avait vieilli quoi.
Le prochain livre qu'on peut lire, moi j'attends avril du coup parce que j'ai vraiment à savoir qui va leur arriver à ces personnages. Alors moi ce que j'aime beaucoup et je disais hier à live sur le book club, c'est que je suis fascinée par les auteurs de dystopie et fantasy parce que déjà c'est compliqué d'écrire, c'est compliqué d'inventer une histoire, d'inventer une psychologie de personnage, mais je trouve que vous les auteurs de dystopie et fantasy, vous êtes encore plus doués parce que vous inventez un monde, vous inventez souvent un langage. Enfin, il y a quand même tout un univers qui sort de votre cerveau et qui nous parle, parce que mine de rien, c'est pas complètement farfelu non plus. Il y a toujours un fondement qui peut nous faire peur ou pas en fonction de la dystopie, par exemple. Il y a des dystopies qui sont très parlantes par rapport à la société géopolitique et tout ça. La tienne, à l'occurrence, c'est pas forcément, elle va pas forcément chercher là-dedans, mais on peut se poser la question, parce qu'on sait jamais, en fait, en vrai. Et voilà, moi, je suis très... Je trouve que vous avez beaucoup de talent. Et comment, la question que je me posais, c'est comment vous faites pour créer un univers comme ça, qui se tient et qui n'est pas, enfin, je sais pas, qui emballe le lecteur, parce que mine de rien, là, dans ta dystopie, c'est quand même une fille, enfin, des gens, entre guillemets, qui habitent sous terre. Donc, je sais pas si tu veux juste le pitcher vite fait pour, parce que je veux pas trop en dire.
Alors oui, donc dans le premier tome, c'est on retrouve notre personnage principal qui s'appelle Lou, qui vit à Terria, donc qui est un monde souterrain. Et l'année de leurs 18 ans, tous les jeunes sont envoyés à l'extérieur, dans le monde d'en haut. Ils ont un an pour vivre ce qu'ils ont à vivre là-haut et faire le choix de revenir à Terria ou de rester là-haut. Voilà, c'est le pitch, c'est le début. On est plongé dans ça. Mais en fait, tout existe, hein. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que les gens sont des fois perplexe face à cet univers-là et qu'ils me disent mais attends mais t'es faut aller chercher loin t'es pas enfin pas perturbé on m'a jamais dit ça comme ça mais que voilà t'es perché un petit peu mais en fait tout existe hein c'est ça qui est fou c'est que bon les mondes souterrains ça existait on a retrouvé des cités antiques qui étaient sous terre j'ai plus le nom je suis nulle j'ai pas de mémoire des noms donc ça c'est compliqué mais ça existait. Alors, pas dans ces dimensions-là, mais ça existait. L'année de césure, moi, je me suis inspirée des Amish, c'est ça, aux États-Unis. Quand j'étais petite, j'ai regardé un téléfilm sur la 6, pour tout te dire. Et ça m'avait marqué de me dire qu'il y avait des gens qui vivaient à ce point reclus pour si peu connaître la même civilisation que nous. Du coup, ils font une expérience de notre monde qui doit être terrifiante quand même, quand tu es complètement coupé de tout ça. Donc ça m'avait marqué. Et après, tout ce qui est... alors, sans trop en dire, mais tout ce qui est... ce qui se passe à Terria. Donc ça, c'est plus dans le tome 2. Mais ce qui se passe à Terria, je me suis beaucoup, beaucoup inspirée du nazisme. Alors, dit comme ça, c'est pas folichon, yeah. Mais les trucs de... Ah, purée. En plus, j'ai pas fait d'allemand, mais les Lebensborn, génétiquement, ils choisissaient des individus qui avaient des gènes.
Oui, pour avoir une race pure à 100%, quoi, ouais.
Exactement. Et en fait, je me suis inspirée de ça. En fait, tout dans mes dystopies, là, tu vois, j'en ai terminé une cet été. Bon, j'ai rien inventé, en fait, si ce n'est j'ai repris des choses terribles qui ont existé dans le monde ou qui existent encore, et je les prends et je les tourne à ma sauce dans mon univers avec des critères et des valeurs qui me sont propres et que j'ai envie de mettre dans mon ouvrage. Mais sinon, en fait, le monde est assez terriblement inspirant. Il faut pas aller chercher très très loin pour voir des horreurs, en fait.
Malheureusement, oui.
Ouais. Et c'est pour ça là cet été. Donc j'ai fini une dystopie, un one shot. Et là, je me suis dit, on va mettre un peu, on va repartir sur des choses plus gaies, parce que je sais pas écrire forcément des trucs joyeux, mais plus simples. Et le contemporain, pour moi, est plus simple que la dystopie. Donc là, je suis partie en contemporain.
Oui. C'est vrai que moi, quand je t'ai lu la première... quand elle nous parle du pitch, c'est vrai qu'on se dit, mais ces jeunes-là, ils sont reclus, ils sortent. Et pourquoi ils reviendraient? Et c'est vrai que c'est ça, je pense, le challenge du roman, en tout cas du premier tome, c'est de se dire pourquoi on aurait envie de revenir. Bon, après, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. Et là, quand tu parles des Amish, oui, je comprends mieux le lien que tu as fait. Oui, je comprends tout à fait.
Ouais, quand t'es conditionné par un monde, en fait.
Ouais, t'es conditionné. Oui, oui, oui.
Et j'avais envie de travailler ça. Et je crois que, en fait, au fil des tomes, plus ça va. Donc, il y a aussi une lenteur qui s'est instaurée dans le premier tome est très dynamique. Il se passe beaucoup de choses. Le 2 l'est aussi. Le 3, il y a plus de lenteur. C'est plus, faut qu'il se calme, quoi, au bout d'un moment, parce que j'ai tué beaucoup de monde. Sur les deux premiers.
Il faut que tu te calmes.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est autre chose. Puis j'ai grandi aussi.
Et est-ce que, oui, non, et puis c'est, ça va avec les personnages, hein. De toute façon, oui. C'est comme dans Harry Potter. À un moment donné, c'est un enfant, et puis après, il évolue, il a des réflexions d'adulte, ce qui est logique aussi.
Aussi.
Et ce qui est drôle aussi, c'est que moi, quand je t'ai lu, j'ai dit, mais c'est dingue, elle a inventé un langage et tout. Et en fait, la petite coquine, elle m'a révélé après qu'elle avait rien inventé, que c'était du basque. Et je trouvais ça énorme. Oui.
Je le mets dans les remerciements parce que j'ai ma copine Chantiana qui m'a fait les traductions. Elle parle basque sous le teint. Il y a 7 provinces au Pays Basque et autant de manières de parler le basque. Et il y a un basque unifié que j'apprends. Du coup, moi, j'apprends l'unifié. Et elle parle de sous le teint. Et donc, il y a certains dialogues qui sont en basque sous le teint. Et il y a certains mots en unifié. Mais j'ai pas inventé la langue.
Moi, je trouve ça énorme de mettre du culturel dans une dystopie ou dans un fantasy, tu vois. Le fait de s'ancrer dans la réalité, quoi. Enfin, bref. Je vous invite juste à découvrir cette dystopie. Et j'ai envie de vous dire, là, vous avez de la chance, vous, parce que, en fait, le temps que vous la lisiez, le troisième sort. C'est pas comme les autres qui ont attendu combien de temps.
Depuis 2000, le 1 est sorti en 2019. Le 2 est sorti en 2023.
5 ans pour certains, ça doit être au bout de leur vie.
J'ai abusé.
D'attendre la suite. Surtout vu la fin du deuxième, qui est quand même hyper...
Elle est dure. Mais en fait, je pensais pas que je ferais pire que la fin du premier.
Ah si, là oui. Ah oui, oui, franchement. La fin du premier, j'ai envie de te dire, ça peut être une fin en soi. Oui. Bien qu'elle soit pas cool...
Ça peut être un one shot.
La fin du deuxième aussi, hein, quoi, clairement. Sauf que, en fait, tu as envie de savoir.
Oui.
Tu as envie de savoir ce qui va se passer.
Et je spoil pas la fin du 3, du coup.
Non, ne spoil pas la fin de rien du tout. Même du 2, tu ne spoil pas derrière.
Non.
De toute façon, on va le découvrir. Ah oui, non, mais attends, on a oublié une rubrique. Ben forcément, c'est toi qui l'as fait, mais tu vas le faire quand même. On a un avant-première, ou pas du tout, parce qu'il date depuis 2019. Il est sorti en 2019. On a la lecture, de son livre. Le tome 1 de la saga.
Le sang des Insignies, tome 1, Résistance. Lou, ne te fie qu'à toi. Tu devras te battre pour survivre, t'adapter à ce monde. Tu vas changer. Je ne peux dire si ce sera en bien ou en mal, mais tu changeras. Et c'est juste de ne pas te perdre, de garder à l'esprit qui tu es. Résiste. Résiste aux tentations sanguinaires qui vont te saisir. Si je ne te vois pas revenir, je garderai à l'esprit la personne formidable que tu étais. Il m'embrasse sur le front, se détourne et sort de la pièce. Je reste seule, chamboulée par ces informations qui me donnent mal à la tête. J'aimerais le retenir, le supplier, lui crier à quel point j'ai peur et comme je me sens perdue. Ce serait tellement simple de lui dire « Je t'aime, ne pars pas, ne me laisse pas ». Mais les mots m'abandonnent. Alors, malgré moi, malgré toute ma volonté de ne pas craquer, je pleure à m'en faire mal au crâne. Mes mains soutiennent péniblement ma tête et je suis secouée de spasmes que je n'arrive plus à arrêter. Je pleure pour ce que j'ai perdu et tout ce que je vais perdre ces prochaines heures. Ma famille, mes amis, le reste de mon innocence. Je ne saurais dire combien de temps j'attends ainsi, mais lorsque mes yeux ne peuvent plus verser une larme, je décide de rejoindre ma sœur avant la cérémonie.
Ben dis donc, tu me sors ça comme ça, si on n'a pas envie. Ça me fait encore des trucs là.
C'est mon premier roman et c'est vrai que quand je le relis, il y a plein de choses que je voudrais corriger et tout ça parce que j'ai vieilli et j'écris différemment maintenant, mais j'adore ce roman. J'adore cette histoire, j'aime beaucoup ces personnages, même si, tu vois, je te disais, j'ai hâte de sortir le tome 3, parce que, bon, il y a un moment, tu vois, il faut accoucher, quoi. Oui. C'est comme quand t'es enceinte, t'adores, enfin, il y a des gens qui n'aiment pas, mais t'adores avoir ton enfant à l'intérieur, mais bon, t'es bien contente de le voir en vrai. Et ben là, c'est pareil, tu vois, j'ai hâte de sortir le tome 3, et en même temps, j'ai très peur. Voilà. Ouais. J'ai très peur, mais bon, comme
je comprends, ça. Je comprends, et c'est naturel. Mais moi je trouve déjà que ce que tu viens de lire, ça me donne envie de découvrir pourquoi elle s'en va. Enfin, tu l'expliques un petit peu, nous expliques un petit peu, mais qu'est-ce qui va se passer, et on sent la violence de cette césure, enfin de ce départ qui en fait qui n'est pas quelque chose de voulu, mais qui est ça fait penser vraiment à l'enfant qui quitte le nid des parents, qui quitte le cocon de chez lui pour aller dans le vrai monde. Mais c'est là, ça. Avec toute la violence que ça peut exister, ça fait vraiment le petit oiseau qui sort du nid avec, tu vois, vraiment plus que l'enfant, parce que nous, on est quand même, les parents, on est quand même entourés des enfants, on les laisse pas partir tout seul. Et là, c'est quand même Lou qui va découvrir un monde qu'elle ne connaît pas.
Ouais, puis Lou, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a soif d'indépendance et de liberté, et elle voit elle a des expériences assez traumatisantes aussi dans sa jeunesse à Teria, et elle voit cette sortie dans le nouveau monde comme une chance de repartir. Elle voit quand même ça comme une chance. Elle est tétanisée, elle a très peur, mais elle se dit pourquoi pas. Parce que pour plein de raisons qu'on apprend dans le tome, elle se dit OK, ça va être une opportunité d'autre chose. Et en fait, c'est quand même des désillusions qu'elle va vivre là-haut. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Mais là, la scène que j'ai lue, c'est elle parle à son père. Ouais. Elle parle à son père avant de partir.
Juste avant la cérémonie de départ.
J'ai fait une grosse pause dystopie parce que c'est compliqué. Les dystopies, au bout d'un moment, ça te prend un peu la tête. Là, je suis plutôt sur du contemporain. Donc, j'ai deux textes en contemporain que je vais écrire et que je suis en train d'écrire. Mais je ferme pas l'idée de repartir dans cet univers. Soit par un spin-off, soit par des suites, soit par un... Mince, je sais plus comment ça s'appelle quand c'est avant l'histoire. J'ai perdu le mot.
Ah oui, j'ai compris.
Tu sais, comme Le Seigneur des Anneaux.
Mais c'est un préquel.
Un préquel, voilà. Soit par un préquel. Voilà, j'ai plein de...
Ah oui, avant. Ah, c'est pas mal. Ouais. Mais je vois de quoi tu peux parler avant. Voilà. Mais je ne dis pas. Mais, non, mais j'ai compris.
C'est ça.
C'est pas mal, ça. Ben parce que moi, je me suis dit ça en lisant le tome... un ou deux, le 1, oui, il y a une histoire qui sort un petit peu et qui est un filigrane, parce que c'est pas l'histoire principale, mais on en a un petit peu, et effectivement, oui.
Et dans le 2, il y a même, alors je vois de quelle histoire tu parles, et dans le 2, il y en a même une autre, il y a plein de gens qui voulaient encore plus de détails sur les origines de ce monde, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent être exploitées. Ouais. Donc, et cet univers-là, je me rends compte, bon, il faut pas non plus faire pour faire, tu vois. J'ai pas envie de dire.
Non, tu as envie de le faire aussi.
Voilà. Ouais. Et puis bon, si les gens aiment, c'est cool, mais enfin, si je suis pas, je te dis ça, peut-être qu'un jour, porté par le succès, je le ferai, mais tu sais, j'ai un peu de mal avec ceux qui exploitent une idée jusqu'à l'os, parce que ça marche.
Parce que ça marche.
Ouais. Tu vois, il faut qu'il y ait du contenu et du fond derrière, parce que si c'est faire pour faire, moi en tout cas, je vois pas l'intérêt. Mais oui. Mais bon, on n'en est pas là encore.
On sait jamais, quoi. Ok. <C'est ça. rire> Ok. Donc là, on attend avril, ta sortie. En tout cas, d'abord,
le moment d'un
équilibre en poche chez Erol, que vous pouvez trouver partout. Alors, c'est un texte qui est essentiellement sur le centre de Bayonne et tout ça. Vous avez l'impression d'être en vacances, c'est génial.
À Bayonne, oui, c'est ça.
Ouais, à Bayonne, ouais. Ensuite, donc, en avril, le tome 3. Et puis après, on attend.
Après, on va voir le reste. Ouais, ouais, pour l'instant, il y a plein de projets.
T'écris. Ouais.
Là, j'écris. Je crée de la matière. Ouais, j'aime bien avoir matière. Ouais, j'aime bien avoir. Ben, j'ai un manuscrit qui est fini, que t'as bêta lu, d'ailleurs. Celui-là, il est fini. Une dystopie qui est finie aussi. Et je suis en train d'écrire un autre contemporain. Et j'ai une idée pour le suivant. J'ai pas fini celui-là, que je suis déjà en train de penser au suivant. Donc voilà, là je crée de la matière et je me consacre aussi beaucoup aux ateliers d'écriture et aux formations. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup. Donc voilà.
Et le contemporain que j'ai lu, moi j'espère qu'il sera publié. Bon, en tout cas, il faut que tu en fasses quelque chose parce qu'il ne peut pas rester comme ça, parce qu'il est trop bien. Et bon, on en reparlera en temps voulu.
Je me consacre beaucoup aux ateliers, aux formations. C'est vraiment, ça me passionne. J'adore ça. J'adore rencontrer des gens, discuter de parler écriture. Ouais. Là, je fais beaucoup à destination d'un public plutôt jeune. J'interviens beaucoup en école, Icachtola et lycée et collège aussi, voilà, milieu scolaire et sur la maternité aussi. Je fais des ateliers d'écriture autour de la maternité.
Oh, c'est génial ça.
Oui, oui, oui. Voilà. Pour ceux qui sont dans le coin, on peut retrouver les ateliers à la clinique Bellara. Voilà, s'il y a des futures mamans. Ouais. S'il y a des futures mamans qui sont intéressées, ou même pour des événements, je fais des ateliers autour de la maternité ou de la grossesse, voilà, la matrescence.
Eh bien, dis donc.
Bah, ouais, c'est ça, cool, ça me passionne.
T'as plein de casquettes, vraiment, c'est, tu fais plein de choses aussi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Cécile.
Merci à toi.
Merci à nos éditeurs pour ce format un peu original aujourd'hui.
Clair.
Vous avez eu vos deux animatrices en même temps et pas d'invité, mais si, l'invité c'était Cécile.
C'est moi.
Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à découvrir Cécile sur sa dystopie ou sur son poche, donc que vous allez retrouver en librairie d'ici fin mars. Et puis voilà, mais Cécile, je te laisse conclure.
C'était Cécile Briomé et vous avez écouté chapitre 2.
Chapitre 2, le podcast qui parle livre.
Chapitre 2.